C'est la dernière, le dernier chapitre sur l'histoire des missions au XXe siècle, l'évangélisation des tribus primitives en Amérique latine. L'Amérique latine, nous en avons déjà parlé, c'est un pays qui a été particulièrement marqué par l'évangélisation au XXe siècle, et en particulier une pénétration du protestantisme, notamment d'origine anglo-saxon et surtout pentecôtiste. C'était un continent qui était marqué, qui reste marqué par la pauvreté et l'illettrisme. Et dans ce continent, il y avait, dans en particulier les régions équatoriales, subéquatoriales, l'Amazonie, etc., toute cette zone de encore peu exploré, il y avait des tribus primitives, n'est-ce pas, qui n'avaient pas encore été touchées par l'Évangile, pas même, bien entendu, par le catholicisme. Et nous allons laisser de côté, justement, dans notre étude de ce soir, ce qui est la progression de l'Évangile en Amérique latine, ça nous l'avons déjà vu en son temps, pour nous intéresser plus précisément à l'évangélisation, justement, des tribus primitives dans toutes ces régions-là. Quelques mots tout simplement pour évoquer simplement le contexte. Parmi ces pays, il faut citer essentiellement le Brésil, avec toute la grande zone de la forêt amazonienne, qui se prolonge évidemment notamment dans des pays tels que la Colombie et l'Équateur. Ces deux pays-là en particulier, qui ont subi une forte influence de l'Espagne et donc automatiquement du catholicisme. Le Chili, par contre, était un pays où le progrès technique était très avancé, qui était un des pays les plus avancés d'Amérique latine et où on a vu surgir au XXe siècle, nous avons vu, un mouvement de Pentecôte extrêmement puissant. Le Pérou également, bien qu'il ne soit pas dans la zone équatoriale directement, est un pays andin où les tribus indiennes des hauts plateaux et des montagnes des Andes, n'est-ce pas, étaient aussi peu touchées par l'Église catholique. Et justement, dans ces deux derniers pays, l'Église catholique était la seule Église officielle. Les difficultés de l'évangélisation étaient telles que entre 1948 et 1956, en Colombie notamment, il y a eu de véritables persécutions sanglantes contre les évangéliques. Et on note, entre autres choses, 77 morts, 47 églises détruites, avec la complicité du Vatican. Les choses ont commencé à changer avec le Concile, où il y a eu donc une évolution. Néanmoins, à l'heure actuelle, tout n'est pas résolu, loin s'en faut, d'autant que maintenant ces pays sont associés avec des réseaux mafieux qui contrôle la drogue, notamment en Colombie, mais également des réseaux islamistes. Toute cette région, ce qu'on appelle ici les trois pays, c'est-à-dire essentiellement la Colombie, le Pérou et l'Équateur, sont truffés par des mafias qui sont en relation avec les islamistes les plus extrémistes, Al-Qaïda et autres choses semblables, qui ont établi là-bas des bases arrières difficilement accessibles, justement du fait qu'ils sont protégés par les mafias. Et là-bas, ils jouissent d'une quasi-impunité. De ce fait, les chrétiens locaux continuent à être soumis à des situations extrêmement difficiles. Des persécutions qui, pour n'en être pas officielles, n'en sont pas moins extrêmement difficiles à vivre pour nos frères, qui ont les plus grandes difficultés à vivre leur foi, qui sont accusés faussement de toutes sortes de malfaçons et qui sont parfois tout simplement massacrés sans autre forme de procès. L'Amérique latine est aussi, en principe, officiellement un continent peuplé de pays catholiques dont la religion officielle continue à être le catholicisme. C'est le cas, par exemple, pour l'Argentine, un des plus grands pays. Même si les évangéliques jouissent d'une grande liberté, officiellement, la religion officielle reste le catholicisme. Il y a des millions maintenant de chrétiens évangéliques en Amérique latine, soit 11% de la population, par exemple au Chili, qui est pentecôtiste. Mais les problèmes de ce continent sont extrêmement importants. Pauvreté, disions-nous tout à l'heure, qui évidemment entraîne aussi l'alcoolisme. Les trafics divers, les mafias, donc, qui prolifèrent sur ce terreau-là, de telle sorte que les classes moyennes vivent en sorte à peu près, encore que, vous savez maintenant, des crises économiques graves touchent l'Argentine, par exemple. Mais les classes supérieures de ces pays sont en général au mieux indifférentes, au pire hostiles à l'Évangile. Elles restent très liées avec le pouvoir romain. Si bien que même dans des pays libéraux tels que justement le Chili, le Brésil ou bien l'Argentine, les frères là-bas ne sont pas malgré tout à la merci d'actes d'hostilité, d'autant que de temps en temps le pape vient remettre de l'huile sur le feu, s'en prenant à ce qu'il appelle les sectes pentecôtistes et évangéliques qui, selon ses dires, ravageraient le continent sud-américain et seraient particulièrement nocives. C'est une des raisons pour lesquelles les frères là-bas refusent le mot protestant. Et le terme qu'ils veulent employer, c'est le terme évangélique. Maintenant, les problèmes aussi sont d'autant plus aigus que le protestantisme est considéré comme un produit d'importation nord-américain. Dans un continent où les nord-américains ne sont pas toujours bien vus, loin s'en faut. Le nord-américain, le Yankee, comme on l'appelle là-bas, est souvent considéré comme un exploitant, un capitaliste, et les adversaires de l'Évangile jouent sur cet aspect, c'est pas, pour essayer de s'opposer à la diffusion de l'Évangile. De ce fait, les évangéliques sud-américains ont souvent tendance à chercher à s'émanciper de la tutelle nord-américaine, ce en quoi ils ont d'ailleurs parfaitement raison. Et malgré ces obstacles, l'Évangile progresse considérablement dans ces pays, et notamment dans certains pays d'Amérique centrale, tels que le Guatemala, le Honduras, Costa Rica, enfin des petits pays de cette région. Certains de ces pays sont en passe d'avoir une majorité protestante. Donc un basculement donc de la majorité. C'est quand même quelque chose de tout à fait rare pour pouvoir être noté, de sorte que certains ont jusqu'à dire que peut-être le continent sud-américain serait l'espoir du XXIe siècle. Il faut quand même préciser que la sécularisation et par conséquent l'attiédissement de la foi qui lui est pratiquement consubstantiel, pourrait-on dire, ça, touche aussi ces pays d'Amérique latine. Et il y a aussi, malgré tout, l'influence nord-américaine qui se fait sentir pas toujours dans ce qu'il y a de meilleur. Beaucoup de Sud-Américains rêvent de singer les télévangélistes américains, emploient des méthodes aussi de raquettes d'argent qui sont pas toujours très, très recommandables et qui sont autant de bâtons qui sont coupés pour se faire battre et qu'évidemment les catholiques emploient, encore que les catholiques aussi essayent d'employer les mêmes méthodes. Donc, rien n'est véritablement joué non plus là-bas. Disons aussi que ces pays souvent surpeuplés, aussi au point de vue démographie et natalité, c'est un de leurs problèmes également, ont tendance à vouloir se rendre en Amérique du Nord. Et l'Amérique du Nord connaît avec les hispano-américains les mêmes problèmes que nous connaissons, nous, avec les Arabes. Ça veut dire une immigration clandestine effarante des hispano-américains, dans le sud des États-Unis en particulier, ça va, de telle sorte que là aussi, il y a à la fois donc beaucoup de ces hispano-américains qui renforcent l'Église catholique, mais aussi un certain nombre de gens qui sont ouverts à l'Évangile. Bon, voilà, donc ici, il y a toute une situation extrêmement mouvante, difficile à cerner, et dont l'évolution, pour le siècle qui commence, n'est pas toujours facile à cerner exactement. Bon, ceci étant dit, maintenant, parlons justement des tribus primitives, ce qui est notre sujet. Les tribus primitives, évidemment, ce sont essentiellement celles qui habitent les jungles quasiment inextricables de l'Amazonie et de la Colombie, de l'Équateur, enfin de tous les pays, et aussi évidemment de l'Amérique centrale. Bon, ces gens-là n'ont pratiquement pas été touchés, évidemment, par l'évangélisation catholique depuis la découverte du Nouveau Monde, disons. Et au contraire, ont souvent été la victime, les victimes des Blancs, qui cherchaient à les exploiter de mille manières. Mauvaise réputation, pourrait-on dire, que les Blancs ont acquise parfois auprès de ces indigènes, fait que aussi l'Évangile a toujours été considéré comme quelque chose de négatif, parce que c'était quelque chose qui était la religion des Blancs et qui leur était amené par des gens qui étaient en fait des exploiteurs. Maintenant, le problème aussi de l'évangélisation de ces tribus, c'était qu'elles étaient souvent hors d'atteinte. Elles étaient dans des régions extrêmement difficiles d'accès, au point de vue géographique, s'entend. Et si l'évangélisation de ces tribus a été possible, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, grâce à l'essor d'une organisation qui s'appelait Missionary Aviation Fellowship, donc compagnie d'aviation missionnaire, qui a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par d'anciens pilotes militaires de l'US Air Force, qui avaient donc participé à la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et qui se sont convertis, ou bien étaient déjà convertis, et qui ont pensé justement qu'on pourrait créer une compagnie d'aviation missionnaire qui permettrait justement, grâce à l'avion, d'atteindre des régions qui n'étaient pas accessibles autrement. L'avion étant en effet pratiquement le seul moyen d'atteindre ces tribus, puisque autrement il fallait alors employer des pirogues, c'était extrêmement dangereux, c'était très long, tandis que l'avion permettait évidemment d'aller beaucoup plus vite. Donc cette organisation a été créée par un certain Frank Drum, qui était originaire de l'Iowa, et qui, à l'âge de 18 ans, avait, en 1944, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avait entendu un appel missionnaire de la part du Seigneur. Démobilisé, ce pilote avait épousé une certaine Marie Page, qui elle aussi avait un appel missionnaire, et les deux étaient donc décidés à faire quelque chose pour l'évangélisation de ceux qui n'avaient pas encore entendu l'évangile. Et alors qu'ils priaient pour demander au Seigneur la direction, sa direction, savoir vers quel peuple ils voulaient être envoyés, quelqu'un leur a parlé d'une tribu extrêmement redoutable en Amérique du Sud, les Jivaros. Ces gens étaient extrêmement dangereux. Ils avaient cette réputation d'être des coupeurs de têtes et des réducteurs de têtes. Ils s'entretuaient entre eux, d'ailleurs. Ils s'en prenaient pas seulement aux Blancs, mais c'était des tribus qui étaient extrêmement sauvages, extrêmement guerrières et féroces, sanguinaires, tu vois, qui s'entretuaient les unes les autres. Et une fois qu'ils avaient tué leurs ennemis, ils leur coupaient la tête et ils la réduisaient à l'état d'une pomme. Ils avaient les chefs et les guerriers étaient fiers de montrer toute la collection des têtes de leurs ennemis qu'ils avaient ainsi tuées. Inutile de vous dire que les vocations missionnaires pour aller évangéliser ce genre de tribus ne se bousculaient pas. Et c'est alors que le couple Tarum a senti l'appel du Seigneur pour aller évangéliser les Jivaros. Ils n'étaient pas les premiers, en fait, à s'occuper de cette tribu-là, car déjà l'Union missionnaire évangélique, qui était une organisation missionnaire américaine, nord-américaine, s'était intéressée aux Jivaros dès le début du siècle, c'est-à-dire dès 1903. Très vite, le couple Drum s'est heurté à des difficultés extrêmement importantes, et notamment, outre le danger qu'il y avait de fréquenter ces tribus qui ne se laissaient finalement pas approcher, hein, elles tuaient systématiquement tous ceux qui osaient s'approcher d'eux, il y avait les difficultés d'accès, justement, dont nous avons parlé. Un autre couple s'est joint à eux, c'était des gens qui avait été missionnaire en Inde, monsieur et madame Freeman, puis un certain Charles Olson, qui aussi avait déjà eu le désir de s'occuper des Jivaros, par l'intermédiaire justement de l'Union missionnaire évangélique, avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, il avait essayé d'évangéliser les Jivaros. Et quand il a appris qu'une équipe de missionnaires se formait pour aller évangéliser les Jivaros, il s'est joint à eux, d'abord parce que ça l'intéressait toujours, et deuxièmement parce qu'il pensait pouvoir faire part de son expérience à ces gens-là. Et c'est ainsi qu'en 1945, donc juste à la fin de la guerre, à la lisière de la forêt équatorienne, puisque c'était les Jivaros étaient installés sur le territoire de la République de l'Équateur, dans la ville, la ville de Suara, enfin la ville, c'est un bien grand mot, je ne sais pas si on peut, comment on peut appeler ça, le lieu dit Suara, finalement, ils ont installé une station missionnaire. Bon, c'était la dernière localité qui se trouvait en pays, entre guillemets, civilisé. On était juste à la bordure du pays des Jivaros. À cette époque-là, donc, le couple Olson était déjà des gens âgés. Ils avaient comme l'autre 68 ans. Hein. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à risquer leur vie pour aller là-bas. Par contre, Franck et Marie, donc le jeune couple, eux, étaient parmi les plus jeunes des missionnaires. Ils avaient 23 ans l'un comme l'autre. Quand le 13 décembre 1945, ils sont arrivés dans une autre localité qui se nommait Guayaquil pour se préparer justement à la mission et pour apprendre l'espagnol d'abord et puis ensuite pour essayer d'apprendre aussi les langues locales. Et c'est alors que, devant les difficultés de la tâche, soudain, Franck a pensé à l'avion. Ça a été, soudain, c'est son idée. Mais pourquoi ne pas acheter des avions légers ? L'US Air Force, à cette époque-là, vendait à bas prix beaucoup d'avions qui étaient des surplus, en quelque sorte, de la guerre, qui n'avaient plus d'utilité puisque la guerre était terminée. On pouvait même acheter des bombardiers, des armées, des choses comme ça, pour en faire des avions civils. Mais ce qui intéressait essentiellement Franck, c'était des avions légers, genre Piper, qui avaient le gros avantage de décoller et de se poser sur des distances extrêmement courtes, sur des terrains qui n'étaient pas aménagés. Ce qui était évidemment indispensable. Donc dans des clairières, des choses comme ça. Ces avions exigeait aussi une maintenance extrêmement réduite. Et c'est ainsi qu'il a fait un appel pour ramasser des fonds pour acheter des avions. Ils étaient au départ, l'équipe missionnaire était composée de 9 personnes au départ. Et donc, Franck a fait appel, mis des annonces dans les journaux missionnaires, pour lancer donc une compagnie d'aviation missionnaire. Et cette annonce est tombée sur les yeux d'un certain nombre de pilotes militaires aussi démobilisés, chrétiens et aussi intéressés par la mission, et en particulier par un certain Nate Saint, qui lui-même avait été pilote militaire, il avait été abattu, son avion avait été abattu et il avait subi un grave accident d'avion et a été blessé. Et donc, il se remettait de ses blessures, mais avec le désir aussi de servir le Seigneur. Il y avait déjà quelques années que Franck et sa femme étaient donc déjà à Suaka. Et ils ont été rejoints par Ned Saint en janvier 1954. Donc, il a fallu presque 10 ans pour préparer donc le terrain à cette œuvre d'évangélisation. Puis un autre pilote militaire, lui aussi démobilisé, a rejoint l'équipe. Il s'agissait de Roger et de sa jeune femme Barbara Yuderian, qui étaient des Arméniens installés aux États-Unis. Les premiers avions, le premier avion au départ, il y avait un seul avion, a été acheté donc. Ramené sur la station. Et très vite, la compagnie s'est développée parce qu'on s'est rendu compte dans les grandes organisations missionnaires américaines qu'effectivement, ça pouvait être un outil extrêmement utile, non seulement pour atteindre des régions difficilement accessibles, comme celle qui était perdue au cœur de la jungle, mais également aussi pour éventuellement ravitailler des stations missionnaires isolées. Et c'était le cas justement pour ici, la station de Soka, qui était souvent difficilement accessible. Et par exemple, s'il y avait des malades, s'il fallait des évacuations sanitaires d'urgence, c'était extrêmement difficile par les moyens traditionnels, pirogues ou bien transport avec des bêtes de somme ou des choses comme ça. Donc l'avion, évidemment, était une grande aide. Et c'est ainsi que la Missionary Aviation Fellowship s'est considérablement développée pendant ces 10 ans. Les missionnaires ont tenté une première approche des Rivaros, et en particulier d'une tribu qui s'appelait les Atcharas, qui était en conflit avec les Rivaros. Ça a failli très mal se passer, et Franck et Roger ont failli être tués. Ils ont échappé de justesse à ces féroces sauvages qui donc se sont trouvés en leur contact. À partir de 1955, donc après avoir renoncé à évangéliser pour cette tribu, Ned et Roger se sont intéressés à une autre tribu aussi proche de celle des Rivaros, c'était les Aucas. Les Aucas c'était aussi une tribu alors qui vivait pratiquement encore à l'âge de pierre. Ils vivaient nus dans la forêt. Ils avaient pour toute arme des sarbacanes empoisonnées, avec des flèches empoisonnées, extrêmement dangereuses. Et ces tribus étaient en guerre les unes contre les autres. À plusieurs reprises, donc, les missionnaires avaient essayé de voir dans quelle mesure on pourrait les empêcher de s'entretuer, avertir les tribus menacées par le moyen de l'avion, etc. Bon, ça n'avait pas réussi. Finalement, la mission s'était aussi implantée au Guatemala et en Amérique centrale à partir de 1947. Aussi, grâce à l'avion, donc, on avait pu atteindre des tribus qui étaient beaucoup moins sauvages, beaucoup moins barbares, beaucoup moins féroces, n'est-ce pas ? On avait pu les évangéliser. Et la preuve a été faite que l'avion pouvait ainsi être d'une grande utilité. Les tribus de Guatemala étaient des tribus, malgré tout, où les choses ne se passaient pas facilement. Parce que les indigènes étaient à la fois des gens qui adoraient les anciennes divinités mayas et aussi des saints catholiques avec lesquels ils avaient fait une assimilation. Donc là, pour ce qui était des Guatémaltèques, des tribus guatémaltèques et d'Amérique centrale d'une manière générale, ainsi que du sud du Yucatan, donc la région qui était territoire mexicain, la difficulté résidait justement de ce que ces gens avaient été superficiellement évangélisés par les catholiques, et finalement, un petit peu comme les gitans d'ailleurs, avec les Saintes Marie de la Mer et tout ça, ils faisaient un amalgame extrêmement préjudiciable justement de leurs anciennes religions, leurs anciennes coutumes. C'était le cas d'ailleurs un peu dans toutes ces régions aussi, dans les îles des Antilles, on trouvait avec le vaudou, des choses comme ça, enfin le semblable syncrétisme. Et là est arrivé, donc, dans ces années-là, un missionnaire anglais qui s'appelait Townsend et qui a eu à cœur d'évangéliser, aussi grâce à l'avion, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, enfin l'Amérique centrale d'une manière générale. Et c'est là donc que Townsend s'est rendu compte que non seulement ces gens-là étaient mal évangélisés, d'une manière très très superficielle, mais qu'une des raisons de leur méconnaissance, c'était qu'ils avaient aussi une maîtrise très très superficielle de l'espagnol. En principe, l'espagnol était la langue officielle de ces pays, mais la réalité, c'est que ces tribus-là parlaient leurs anciens dialectes, et pour les contacts avec l'extérieur, bon, avaient un espagnol extrêmement rudimentaire. Et que par conséquent, prêcher en espagnol à ces indigènes-là, c'était pratiquement se condamner à l'échec. Et il s'est rendu compte que l'échec de ce qui avait été entrepris en Amérique centrale par des missionnaires américains dès 1917, parce que c'est en 1917 qu'on avait essayé d'atteindre ces tribus, avait échoué essentiellement parce que ces gens-là n'avaient pas de Bible dans leur langue. Et c'est ainsi qu'avec sa femme, Townsend a entrepris de traduire la Bible dans la langue des indigènes. 2 années plus tard, 3 années plus tard, il a perdu un de ses collaborateurs, un certain Robinson, qui est mort des difficultés du climat. Et Townsend a réalisé que ce n'était pas simplement les tribus d'Amérique centrale qui se trouvaient confrontés avec ce genre de problème de linguistique, finalement. Mais c'est également les tribus des Andes qu'il avait aussi essayé d'atteindre. Et notamment, dans les Andes, il avait tenté de créer une école biblique pour créer des ouvriers indigènes. Et c'est ainsi que Thompson a été amené à créer la mission Wycliffe. La mission Wycliffe, qui est une mission qui avait pour but, qui se donnait pour but essentiel, de traduire la Bible dans des langages où elle n'était pas encore traduite. N'était pas traduite pour une bonne et simple raison, c'est qu'on considérait que ces différents dialectes étaient parlés par trop peu de personnes et que ça ne méritait pas qu'on investisse des forces, des collaborateurs, de l'argent pour traduire la Bible dans ces dialectes-là. Et c'était évident que traduire la Bible dans une langue nouvelle, ça implique d'abord qu'on envoie des gens apprendre la langue sur place. Ensuite, il y a tout le travail donc de traduction. Parfois, il fallait donc tout simplement alphabétiser ces gens-là. Ça veut dire fixer la langue déjà aussi. Une langue qui n'avait pas du tout de littérature. Donc c'était un travail absolument considérable. C'est parfois des dizaines d'années de travail. Après, donc, les fonds pour imprimer les Bibles, les diffuser, etc. Alphabétiser les indigènes pour qu'ils apprennent à lire. Bon, c'est un travail considérable. Donc, jusque à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, finalement, les grandes organisations bibliques, par exemple l'Alliance biblique universelle qui avait son siège à Londres et dont dépendent la plupart des sociétés bibliques, n'avaient pas cru nécessaire de s'occuper de dialectes qui leur semblaient d'autant plus secondaires que finalement on pensait que ces gens parlaient soit l'espagnol, soit l'anglais, soit le français dans des colonies d'Afrique, par exemple, qui étaient colonies françaises. Bon, on ne se rendait pas compte que ces gens-là ne possédaient pas suffisamment la langue officielle des colonisateurs, puis du pays, pour pouvoir lire la Bible dans leur langue, et que finalement, un effort de traduction de la Bible dans ces langages-là était absolument indispensable. Thompson a été le premier qui a réalisé cette nécessité absolue de traduire la Bible dans un certain nombre de ces dialectes. Et c'est ainsi qu'a été créée donc la mission Wycliffe, qui visait essentiellement aussi l'Amazonie. Le but de Thompson, c'était les Indiens d'Amazonie. Par exemple, au Mexique, Townsend a recensé 50 tribus qui ne comprenaient pas l'espagnol. Or, justement, il y avait aussi des difficultés politiques. Ces difficultés politiques, elles venaient de ce que les pays d'Amérique latine, avant la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'au Concile, pratiquement, comme on a dit tout à l'heure, étaient officiellement catholiques et interdisaient les activités missionnaires non catholiques sur leur territoire. C'était le cas au Mexique, par exemple. Et là où Thompson voulait évangéliser ses 50 tribus, il s'est heurté à des refus du gouvernement mexicain pour cette raison-là, qui s'opposait à l'intervention des missionnaires. Alors, bon, Thompson a dit, bien, au moins, on va envoyer des travailleurs sociaux qui vont apprendre la langue et on enverra la littérature de l'extérieur, ce qui fut fait. Mais là, quand il s'est agi d'envoyer de la littérature évangélique, même la Bible, tout simplement, à ces populations indigènes, refus du gouvernement mexicain, officiellement donc catholique. Et il a fallu donc attendre le tournant du Concile pour que le président de l'époque, le président du Mexique, le président Cárdenas, lui-même tranche en dernier ressort parce que l'épiscopat mexicain s'opposait à l'entrée de la Bible sur le territoire mexicain. Et c'est le président de la République auquel Thompson a réussi à faire appel qui donc a permis l'entrée de la littérature sur le territoire du Mexique. Même chose au Pérou, où les portes se sont quand même ouvertes à partir de 1943. Bon, donc, les choses étaient à ce stade-là, lorsque l'évangélisation des tribus donc, primitives a repris au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Cette évangélisation a commencé à partir de 1951, avec l'ouverture justement de l'Équateur, République de l'Équateur, qui a accepté des missionnaires dès 1951. Et par exemple, à partir de ce moment-là, est arrivé dans le pays un certain Jim Elliot, qui, avec son ami Pierre, avait déjà pour objectif d'évangéliser les fameux Aucas. Or, déjà en 1925, des missionnaires avaient essayé de prendre contact avec ces Aucas et avaient été massacrés. Pourquoi ? Parce que les Aucas ne supportaient pas le moindre contact avec les Blancs. D'abord parce qu'ils se rendaient bien compte que les Blancs leur étaient supérieurs grâce à leur technologie, et eux refusaient donc de s'adapter du tout à cette nouvelle vie, n'est-ce pas, qui leur était proposée, et ils voulaient rester avec leurs coutumes. En 1952, ils ont été rejoints par un certain Pierre Fleming, qui est venu avec sa femme Olive, donc, dans cette station de Guayaquil qu'ils avaient fondée, où ils étaient arrivés pour apprendre l'espagnol, aussi se sentant un appel pour toutes ces tribus. Entre-temps, la station de Chandria avait été fermée, après donc le massacre averti heureusement par la tribu des Rivaros. Et malgré tout, donc certains des missionnaires qui avaient été chassés de cette station continuaient à penser, à prier pour qu'on puisse finisse par atteindre ces populations extrêmement fermées. D'autres missionnaires sont arrivés donc à Quito en 1952. C'était Ed et Marie McCully. Et la station de Chandria a été reconstruite par ces différents arrivants qui se sont installés là-bas et qui sortaient directement de l'école biblique missionnaire de Los Angeles. Ed et Marie, en particulier, outre leur formation missionnaire biblique, disons, avaient aussi une formation paramédicale. L'école biblique missionnaire de Los Angeles donner pratiquement à tous ces étudiants une formation paramédicale. On s'était rendu compte à quel point, justement, un certain nombre de connaissances dans ce domaine-là étaient utiles pour les missionnaires, parce que souvent, justement, les conditions d'hygiène dans les tribus primitives étaient particulièrement lamentables. Et le peu qu'on pouvait apporter de secours dans ce domaine-là était toujours le bienvenu et ouvrait aussi considérablement la porte à l'Évangile. C'est ainsi que le couple avait étudié évidemment tout ce qui concernait les maladies tropicales, mais aussi l'obstétrique, ça c'était aussi quelque chose qui était souvent très très négligé, et puis la dentisterie, parce que souvent les indigènes aussi souffraient de problèmes dentaires. Il n'était évidemment pas question d'avoir de roulette dans la jungle, vous imaginez, enfin un minimum quand même, en particulier, bon, c'est les extractions, c'était surtout ça, parce que beaucoup faisaient des abcès, enfin bref. Donc, c'est le 10 décembre que le couple était parti pour l'Équateur. Pendant ce temps, les choses allaient très mal à Chandria, où cet hiver-là, des inondations extraordinaires, enfin exceptionnelles, avaient eu lieu, et les plantations avaient été détruites par ces inondations. Le couple a été aidé néanmoins par la société d'aviation missionnaire dont nous avons parlé, que dirigeait en Équateur Nat Sent et sa femme, dont nous avons déjà parlé. Nat Sent avait déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de s'intéresser aux Aucas, et il avait en particulier survolé leur territoire à plusieurs reprises. En 1954, donc, nous l'avons vu, il avait été rejoint par le couple Yuderian, qui lui, entre-temps, avait réussi, grâce à l'avion, à prendre contact avec les Rivaros. Les Rivaros, coupeurs de tête. Roger Yuderian était un as de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait participé à la bataille du Rhin en 1944, à la bataille des Ardennes, en tant que pilote militaire. Il était arrivé en 1953 en Équateur avec sa jeune épouse. Il avait également eu l'occasion de prendre contact avec une tribu voisine des Rivaros, les Almeras, et finalement, grâce à l'avion, et grâce à des contacts qu'il avait pu nouer avec ces gens-là, petit à petit, donc en commençant par donner des cadeaux, sans autre but, quoi, montrant que finalement les Blancs n'étaient pas du tout des monstres que ces gens-là craignaient, redoutaient. Eh bien, il avait réussi à nouer des contacts humains d'abord avec ces gens-là. Et petit à petit, donc, il avait pu amener des missionnaires, grâce à l'avion, qui avaient évangélisé ces gens-là. Et bien que la pénétration de l'évangile était extrêmement difficile, plusieurs s'étaient convertis et il y avait une œuvre qui avait commencé parmi ces tribus-là. Et c'est ainsi que le 2 juin 1954, l'équipe missionnaire de la Missionary Aviation Fellowship a décidé d'entreprendre la même chose avec les Aucas. Bon, les Rivaros étaient déjà une tribu extrêmement, et puis toutes les tribus qui étaient alentour étaient des tribus extrêmement dangereuses, mais ce n'était rien à côté des Aucas. Les Aucas étaient les pires de tous. Et là, quand les missionnaires ont fait part aux Rivaros convertis de leur désir d'aller contacter les Aucas, les Rivaros leur ont déconseillé formellement. Vous allez à une mort certaine. Là, on vous déconseille à fond. Nous-mêmes, il dit, on ne peut pas avoir de contact avec ces gens-là. Ceux qui ont essayé de les approcher ont été massacrés. Donc, c'est inutile. Vous, les Blancs, à plus forte raison. Si nous, déjà, qui sommes proches d'eux sur le plan ethnique, nous avons déjà eu des problèmes, alors vous, n'y comptez pas. N'y comptez pas. Il faut dire qu'en 1924, déjà, un missionnaire catholique jésuite avait tenté de les évangéliser. Mais ce qui avait été négatif, c'est que les Aucas avaient été victimes des exploitants blancs. Les Blancs avaient été extrêmement, s'étaient comportés d'une manière tout à fait négative vis-à-vis d'eux dans cette région, et ça avait été ce qui avait été rendu aussi l'évangélisation pratiquement impossible. En effet, entre 1940 et 1944, la Shell, la compagnie pétrolière Shell, c'est toujours cela. Vous savez, les pétroliers, si l'argent n'a pas d'odeur, le pétrole pour eux n'en a pas non plus. Bien que le pétrole ait une odeur forte, pour les pétroliers, il n'en a pas. Et on pensait à la Shell qu'éventuellement, il serait possible de trouver des gisements de pétrole dans la jungle équatoriale. Et donc, des équipes de prospecteurs avaient été envoyées par la Shell pour essayer de trouver, donc faire des sondages un peu partout dans la jungle. Il se trouvait justement qu'on pensait que sur le territoire des Aucas, il pouvait y avoir des gisements de pétrole importants. Aussi, les prospecteurs s'étaient-ils aventurés sur le terrain des Aucas. Évidemment, les Aucas s'étaient opposés à l'arrivée des prospecteurs, mais lesquels n'avaient pas fait de détails. Ils savaient bien, eux, qu'ils avaient affaire à des populations dangereuses, et ils avaient des escortes armées qui avaient tiré sur tout ce qui bougeait. Si bien qu'ils avaient fait de véritables hécatombes des Aucas. Inutile de dire que finalement, en 1949, quand on s'est rendu compte que finalement on s'était trompé, qu'il n'y avait strictement aucun gisement pétrolifère important dans cette région-là, et que la Shell a abandonné son projet, eh bien, les Blancs qui étaient passés par là n'avaient pas laissé que des bons souvenirs, loin s'en faut. Et pour les Aucas, tout Blanc était devenu un exploitant en puissance. Et si déjà ils avaient du mal à voir les Blancs auparavant, inutile de dire qu'après cela, eh bien, c'était même plus la peine pour un Blanc d'essayer de s'approcher du territoire des Aucas. Les Aucas avaient appris aussi à circonscrire les Blancs. Il faut dire d'ailleurs que la Shell avait d'autant moins insisté que justement, malgré le fait qu'ils avaient des armes et s'en servaient, n'est-ce pas, les Aucas avaient appris à déjouer la vigilance des Blancs. Et un certain nombre d'employés de la Shell avaient été victimes des Aucas, ce qui avait aussi encouragé la Shell à abandonner le terrain assez rapidement. Comment s'y prenaient les Aucas? Eh bien, ils attaquaient par surprise. Les Blancs ne connaissaient pas la jungle comme ils le faisaient. Et alors, ils s'approchaient sans se montrer. Ils étaient capables de faire des approches. Vous savez comment on fait avec les scouts et les trappeurs, c'est pas comme faisaient les Indiens d'Amérique du Nord aussi. Hein. Et ils s'approchaient à faible distance même des sentinelles qui étaient en faction 24 heures sur 24 dans les exploitations de la Shell. Et là, avec leurs terribles flèches au curare, c'est pas, avec les sarbacanes, eh bien, de nuit essentiellement, eh bien, ils massacraient. Et quand on était touché par une de ces flèches au cœur, c'était à peu près sûr qu'il n'y avait pratiquement aucun traitement. Mais ce n'était pas simplement vis-à-vis des Blancs que les avocats, c'était terrible. Entre eux aussi, ils se livraient à des vendettas absolument sanglantes. Ce qui faisait que parfois, il y avait, selon leur loi, un certain nombre de gens qui étaient, par exemple, qui savaient qu'ils étaient condamnés à mort, et qui parfois fuyaient la tribu. Et c'est ainsi qu'un chrétien, le docteur Carlos, qui était un équatorien, a un jour reçu dans sa hacienda, c'est-à-dire dans son exploitation agricole qui était en bordure, enfin à quelques distances du territoire des Aucas, il a reçu une femme Aucas qui est venue chercher refuge chez lui. Et cette femme lui a fait comprendre qu'elle risquait la mort, je ne sais plus ce qui s'était passé, peu importe, n'est-ce pas, et il lui a demandé donc, elle a demandé la vie sauve en quelque sorte. Et c'est ainsi que le docteur Carlos a accueilli cette femme dans sa hacienda. C'était en quelque sorte la première Auca qui venait de son propre gré au contact des Blancs. Et c'est ainsi que petit à petit, les missionnaires ont pu apprendre un petit peu qui étaient les Aucas, quelles étaient leurs coutumes, la langue aussi, finalement, ils n'ont pas appris avec elle, mais enfin, bon, elle s'est mise, elle, à la langue des Blancs, bien sûr. Au début, quand elle est arrivée, elle ne parlait que le dialecte Auca, puis petit à petit, elle a appris les autres dialectes. Et c'est ainsi que les missionnaires ont appris qu'il y avait cette femme Auca qui était là-bas. Donc, ils se sont rendus, en particulier Jim et Elizabeth Elliott, qui venaient aussi d'arriver dans la région en 1955, se sont rendus dans la hacienda du docteur Carlos prendre contact avec cette femme Auca. Alors quand ils ont fait part de son projet, c'est pareil, il a dit « Oh là là, vous allez à une mort certaine, surtout, surtout, ne vous aventurez pas là-bas. Moi-même, je ne retournerai plus jamais là-bas, parce que le jour où je mets les pieds sur le territoire, c'est la mort certaine. » Et alors, là... Jim et Elizabeth ont demandé, ça fait rien, dis-nous quand même comment ils vivent, etc. Ils ont passé des longues heures avec elle pour apprendre les coutumes, comment ils se comportaient, leur mode de vie, etc., etc. Et plus on leur disait de ne pas aller, plus justement les missionnaires avaient absolument envie de rencontrer ces Aucas et de les évangéliser. Et c'est ainsi que en juin de la même année, les Maculis sont venus s'installer sur le territoire des Arayunas, sur une base qui avait été abandonnée par la Shell, qui était juste à la limite du territoire des Aucas. Pour ce faire, ils ont installé une barrière électrique, parce que dès les premiers jours, ils ont manqué d'être tués par les Aucas. Donc, se sont rendus compte que leur seule sauvegarde, c'était une barrière électrique que les Aucas ne pourraient pas détecter. En septembre 1955, sur cette station missionnaire, 5 familles missionnaires s'étaient rassemblées. Et là, donc, ils ont organisé ça comme une véritable expédition militaire, parce que c'était d'anciens militaires, hein, tous. Et ils ont décidé que cette base serait leur base avancée pour la conquête spirituelle du territoire Auca. Les missionnaires sont entrés en contact aussi avec d'autres tribus indiennes qui avaient eu contact avec les Aucas directement ou indirectement. Et là aussi, ils ont pu apprendre un certain nombre de renseignements qu'ils n'auraient pas acquis autrement. Et c'est ainsi que, au début de septembre, ils ont commencé leur première offensive en direction du territoire Auca. L'offensive, c'était l'offensive aérienne. C'était tous des anciens pilotes. Et pour eux, leur instrument essentiel, c'était l'avion. Alors, l'avion, c'était d'abord survoler le territoire Auca. Alors, le survol, c'était d'abord pour permettre, pour se familiariser avec les lieux et permettre aussi aux Auca de se familiariser avec les avions. Bon, les premiers vols, évidemment, se sont plutôt mal passés. Chaque fois qu'ils survolaient les campements, les villages Auca, ces derniers sortaient, leur faisaient des gestes hostiles, leur lançaient des flèches empoisonnées par sarbacane, évidemment, qui n'atteignaient pas l'avion parce que l'avion a volé trop. Mais enfin, Il n'y avait pas besoin de rester bien longtemps au-dessus du village au Cap pour se voir, pour se rendre compte qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Les missionnaires ont continué quand même. Et au bout d'un temps, bien, les Indiens se sont habitués à voir l'avion. Et finalement, chaque fois qu'ils entendaient l'avion, bon, c'était devenu quelque chose de banal. Ils étaient survolés par l'avion. Bon, comme l'avion ne semblait pas hostile particulièrement, est arrivé un temps où les Indiens ne faisaient plus du tout attention à l'avion. À partir de ce moment-là, les missionnaires ont estimé qu'ils avaient marqué un premier point, qu'il était temps de passer à la phase 2 de l'offensive. La phase 2 de l'offensive, c'était, en survolant les villages indiens, de leur lancer des petits cadeaux. Alors, même scénario. Au début, les cadeaux provoquaient alors des vagues d'hostilité. Au contraire, là, au début, les Indiens fuyaient de paniquer quand ils se sont rendus compte que l'avion lâchait un certain nombre de choses. Et là, alors, les cadeaux qui étaient envoyés étaient abandonnés, laissés, on leur lançait des flèches dessus. Bon, et puis les missionnaires ont persévéré jusqu'au moment où, c'est pareil, pour les Indiens, c'est devenu banal. Le lâchage de cadeaux au-dessus des villages indiens ne provoquait plus de réaction d'hostilité. Et même, au bout d'un temps, les missionnaires ont eu la joie de voir que les cadeaux étaient ramassés. Alors, c'était des cadeaux tels que des couteaux, des choses comme ça, des outils qui pouvaient être utiles aux Indiens, de la nourriture, voire même des friandises, des choses comme ça. Et au bout d'un temps, toujours persévérant, les missionnaires ont eu la joie de voir que les Aucas, au contraire, quand ils voyaient arriver l'avion, pour eux, c'était synonyme de cadeau. Et ils sortaient à la... Et la phase 3, alors c'était une technique que Roger Juderian avait apprise quand il était donc dans l'armée de l'air, avec ses petits avions de Piper, n'est-ce pas, il était possible d'effectuer, par exemple, presque du surplace. Le Piper n'était pas un hélicoptère. Enfin, finalement, on arrivait presque à quelque chose de semblable en faisant... l'avion était capable de faire des virages extrêmement serrés. Donc, si vous voulez, en virage très serré, ben, il faisait pratiquement du surplace. Par conséquent, il était possible non plus de parachuter les cadeaux, mais de les descendre dans un panier. Alors au début, c'est pareil, les indigènes n'osaient pas s'approcher du panier parce qu'ils voyaient la corde qui le suspendait à l'avion. Ils avaient toujours peur de cet oiseau bizarre qu'était l'avion. Et finalement, ils se sont enhardis quand ils n'ont vu que rien se passait, surtout que les cadeaux étaient de plus en plus alléchants, de plus en plus attrayants. Et ils sont venus prendre les cadeaux directement dans le panier qui était suspendu à l'avion. Et puis après, donc, ils sont même allés plus loin. Les indigènes se sont mis eux-mêmes à faire des cadeaux aux Blancs. Ça veut dire que quand ils avaient vidé le panier des cadeaux qu'ils contenaient, eux-mêmes mettaient des cadeaux qu'ils faisaient aux Blancs. Alors, c'était par exemple des produits de leur chasse, de la viande, ou bien des perroquets, superbes perroquets dans des cages, des choses comme ça. Bon. Alors là, évidemment, c'était... C'était quelque chose de tout à fait intéressant. Oui, le premier cadeau qui a été offert, c'était le 6 octobre 1955. C'était une petite bouilloire en aluminium avec une machette. Et au bout de quelques temps, effectivement, les missionnaires se sont rendus compte que les Aucas n'avaient plus peur d'eux. Et au contraire, qu'il y avait pratiquement des relations cordiales qui étaient nouées avec eux. Alors, on a décidé de passer à la phase suivante. Et la phase suivante, c'était ni plus ni moins que de tenter un atterrissage. Alors là, évidemment, c'était beaucoup plus risqué. Avant de passer à cette nouvelle phase, alors il y a eu une phase encore intermédiaire. Les missionnaires ont fabriqué une maquette en bois de l'avion. Et cette maquette, ils l'ont déposée sur un banc de sable qui était le village principal des Aucas, était non loin d'un fleuve, traversait la jungle. Et là, il y avait un banc de sable qui était un endroit où, manifestement, l'avion aurait pu se poser sans trop de difficultés. Et les missionnaires envisageaient justement de tenter l'atterrissage sur ce banc de sable. Alors, avant de se risquer eux-mêmes, ils ont lancé sur le banc de sable une maquette en bois de l'avion. Et là, ils ont entendu de voir ce que serait la réaction des indigènes. Est-ce que le problème, c'est de savoir, est-ce que les indigènes, qui n'avaient plus peur de l'avion quand il était en vol, même quand il était en vol stationnaire, finalement, est-ce que les indigènes allaient avoir peur de l'avion à terre? C'était le gros problème. Bon. Et alors, ils ont vu, au bout de quelques jours, que les indigènes réagissaient positivement vis-à-vis de la maquette de l'avion qui avait été déposée. Et c'est alors qu'ils se sont dit que bien, le temps était venu justement pour tenter un atterrissage. Alors évidemment, c'était le moment de vérité. Et ils ont donc repris langue avec la jeune femme Aoka, qui était chez le docteur Carlos, pour leur donner des rudiments de la langue. Parce que c'était bien gentil d'atterrir, mais qu'est-ce qu'on allait faire là-bas? Il fallait entrer en contact. Et par conséquent, il fallait apprendre au moins un rudiment de la langue Aoka. Et cette jeune femme qui s'appelait Dajruna, enfin qui avait été nommée Dajruna du moins, est venue passer 6 semaines à la station missionnaire pour préparer en quelque sorte l'arrivée là-bas. Le chef de l'expédition devait être Roger Yuderian, qui n'était pas toujours à demeure parce qu'il était le principal pilote de l'organisation d'aviation missionnaire, donc il était toujours par Mons et par vous, mais il avait accepté donc d'être celui qui tenterait l'atterrissage sur le banc de sable. D'ailleurs, il était sur le point lui-même de repartir. Hein, et l'un des problèmes qui s'est posé aux missionnaires, c'était de savoir est-ce qu'ils allaient emporter des armes avec eux au moment de cet atterrissage risqué. Finalement, ils ont discuté le pour et le contre, et se sont dit qu'emmener des armes, c'était en quelque sorte une provocation vis-à-vis des indigènes. C'était risqué, justement, parce que les armes, ils savaient ce que c'était, les indigènes. Hein. Ils avaient vu les ils savaient ce que c'était que des fusils, les gens de la Shell en avaient avec eux. Et par conséquent, les missionnaires se sont dit que si les Aoka les voyaient avec des armes avec eux, ils pourrait penser à un traquenard et que les choses pourraient mal se passer. Finalement, il a été décidé qu'on n'emporterait pas d'armes. Alors donc, ils ont décidé de tenter l'atterrissage sur ce banc de sable qu'ils avaient baptisé pompeusement aérodrome de Palm Beach. Et là, le but était d'installer un campement. C'était monté d'une manière militaire. Hein. Ça, c'était des militaires et c'était une expédition militaire. Une fois qu'on aurait atterri sur Palm Beach, on allait y installer un campement constitué de maisons préfabriquées qui avaient été donc préparées d'avance. Et quelques jours avant l'expédition, soudain, les missionnaires ont rencontré dans la jungle un Aoka. Il a essayé d'entrer en contact avec lui, mais l'homme a détalé à toute vitesse sans qu'il soit possible de prendre contact avec lui. Et là, ça a jeté un froid quand même, parce qu'on s'est dit que si déjà un seul individu isolé avait des réactions de peur en face des missionnaires, et là, les missionnaires se sont dit que peut-être qu'ils n'en reviendraient pas. Alors, ça a été le problème, est-ce qu'on va, est-ce qu'on ne va pas? Et puis finalement, ils se sont dit, tant pis, si on doit mourir dans l'affaire, on mourra, on est prêt à faire le sacrifice de notre vie. Et c'est ainsi que le 23 décembre 1955, l'avion a tenté un passage à très très basse altitude, au-dessus du village. Et là, les missionnaires se sont rendus compte que les indigènes étaient morts de peur en voyant cet avion voler si bas. Et pourtant, ce jour-là, les Aoka ont répondu en offrant aux missionnaires leur plus important cadeau. Donc, c'était des signaux ambivalents. Un côté réaction de peur. Finalement, en discutant au retour du vol, les missionnaires se sont dit, après tout, c'est normal, ils ont eu peur, ça fait du bruit, un avion, ils ne sont pas habitués, un avion qui vole si bas, etc. Bon. Et là, donc, ils ont demandé l'avis des épouses. Le premier commando devait être ça, composé des 5 missionnaires. Et les cinq épouses étaient là-bas. Elles devaient rester en contact radio, évidemment, avec l'avion. Et là, il était décidé qu'on allait passer un jour ou deux sur à Palm Beach. On reviendrait ensuite pour faire que l'avion ferait des rotations pour emmener le matériel pour qu'on fabrique le campement. Et qu'évidemment, il y aurait toujours nuit et jour, 24 heures sur 24, une des épouses qui se relayerait à la radio pour que si jamais il y avait un problème, on puisse faire appel à un deuxième avion qui partirait alors lui de plus loin pour venir au secours, bien entendu. Et finalement, on a quand même décidé de dissimuler des armes dans l'avion. C'était quand même plus prudent. Les armes seraient cachées et ne seraient utilisées qu'au dernier moment. Les Indiens, qui aussi étaient censés les aider, ont calé au dernier moment en disant « Écoutez, n'allez pas, vous allez à la mort. » Les époux se sont demandé aussi, bon, elles ont dit à leur mari, les maris ont dit « Ben, si vous voulez pas, c'est vous qui décidez les femmes, en fin de compte. » Vous avez une bonne chance de rester veuve. Elles l'ont dit carrément. Les épouses ont dit tant pis. Allez-y. Et l'opération avait été fixée au 3 janvier 1956. C'est elles, les épouses, qui avaient demandé qu'on prenne des armes quand même. Le 18 décembre, Ned Cent écrit un message à n'ouvrir qu'en cas où il ne reviendrait pas pour expliquer justement sa motivation. Et le 3 janvier, donc, l'expédition était lancée. Le 3 janvier, l'avion donc a décollé et quelques instants plus tard, il atterrissait donc à Palm Beach sans encombre. Et le premier message que les missionnaires ont communiqué à leurs épouses, c'est que donc l'atterrissage s'était bien passé. Donc, ils ont commencé à installer leur campement et l'avion est revenu pour faire une deuxième rotation, un deuxième voyage. Et pendant qu'il revenait, l'avion a survolé le village et a signalé aux missionnaires qui étaient restés sur place, parce qu'il y avait des gens qui étaient restés sur place, que les Okas étaient sortis du village et venaient vers eux. Déjà, donc, plusieurs Okas les avaient vus, et ils avaient vu notamment des femmes qui venaient vaquer à leurs occupations au bord du fleuve. Là, c'est pas question de laver de linge, parce que ces gens-là vivaient nus. Enfin, ils venaient chercher de l'eau, etc. Bon, ils avaient essayé de prendre contact avec les femmes. Bon, ça avait été mitigé. Elles étaient reparties, quoi, sans que le contact véritable ait pu avoir lieu. Mais là, donc, l'avion a annoncé le contact est imminent. Préparez-vous à recevoir les Okas. Oui, alors, la jeune fille qui était venue la première, on avait tenté de lui offrir des cadeaux. D'ailleurs, il avait nommé Delilah et l'homme qui était avec elle, il l'avait appelé Georges. Et alors, ce Georges-là était revenu peu après et il s'était approché. Là, il n'y avait pas eu de problème du tout. Et le contact était tout à fait positif. Il avait même manifesté le désir de faire un voyage dans l'avion. Et donc, c'est le 7 janvier que l'avion a signalé que les Indiens sortaient du village. Et qui se dirigeait manifestement vers Palm Beach. Et puis, donc, l'avion est arrivé, il a atterri. Il a annoncé qu'il avait atterri, les femmes étaient au contact, à la radio, bien entendu, à la station missionnaire, pour avoir des nouvelles du premier contact avec les Indiens. C'est à 10 heures, donc, le dernier contact radio a eu lieu avec Palm Beach, et puis ça a été terminé. Les femmes ont essayé d'appeler à la radio, d'appeler, et Palm Beach ne répondait plus. Et c'est donc à 7 heures du matin, le lendemain du 7 janvier, que les femmes ont averti donc le quartier général de l'aviation missionnaire que Palm Beach ne répondait plus, et on a demandé si on pouvait envoyer un avion pour voir ce qui se passait là-bas, quoi. Et donc... Johnny Kiman, qui était un pilote missionnaire aussi, a pris un deuxième Piper et il s'est dirigé vers Palm Beach, où la seule chose qu'il a pu voir, c'était l'avion en miettes. La carlingue défoncée et aucune trace des cinq missionnaires. Alors, on a compris que quelque chose s'était produit. Et donc, Une caravane de secours a été envoyée, conduite par ceux qui étaient restés sur place, et les avions Johnny Cake Kinnan continuaient à survoler. Et soudain, il a signalé qu'il voyait sur la rivière un corps qui dérivait. Deux avions supplémentaires sont arrivés alors pour participer aux recherches, directement en arrivant des États-Unis. Et ils ont découvert sur une plage, donc à quelques, un petit peu en aval de Palm Beach, un autre corps qui était sur la berge. Quant aux Indiens Quechuas qui avaient aussi participé à la caravane de secours, ils ont découvert le corps d'Ed. Puis un quatrième corps a été retrouvé, le dernier corps était celui de McCully. Les Indiens les avaient tués dans une embuscade. On a trouvé sur la plage, quand ils sont arrivés à Palm Beach, des traces évidentes de lutte. Et puis ensuite, ils s'en étaient pris ils avaient détruit l'avion après avoir pris les cadeaux qui étaient à l'intérieur. Donc, ainsi s'est terminée l'aventure. Les femmes sont allées donc récupérer les corps des maris qui ont été enterrés sur place. Elles n'ont pas voulu que les corps soient rapatriés. Disant qu'ils ont donné leur vie pour ces Indiens, leur cimetière sera là. Ils ont donné leur vie pour ces gens-là. Alors ça a été évidemment une déception. Puis finalement, les femmes, c'était quelque chose de tout à fait remarquable. Après avoir prié quelque temps, on dit bien, nous allons continuer. Nous ne renonçons pas. C'est un échec temporaire, mais nous ne renonçons pas. Et les femmes ont décidé de poursuivre elles-mêmes, les cinq veuves, avec la sœur de Nett, qui s'appelait Rachel, qui les avait rejoints. Elles célibataires ont décidé de reprendre elles-mêmes l'évangélisation des Aucas. On verra la prochaine fois donc la suite de ce récit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ?